France Inter.
Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans Grand Bien vous fasse. Il y a quelques semaines, on se demandait comment lutter contre notre paresse naturelle, celle qui nous empêche de faire de l'exercice physique. Ce matin, nous allons voir comment l'activité physique peut améliorer notre santé mentale. De quelle façon le fait de bouger, de se lever de son canapé, de lutter contre la sédentarité permet de lutter contre le stress, l'anxiété, de mieux traverser un épisode dépressif, une déprime passagère ou encore d'améliorer notre estime de soi. Pour vous répondre, nos invités, dont la coach sportive Lucille Woodward, qui partagera quelques exercices ludiques à suivre en vidéo. Et vous racontez-nous comment l'activité physique, le sport, vous ont permis d'améliorer votre santé mentale, à faire baisser votre niveau de stress au standard et sur WhatsApp au 01 45 24 7000, sur l'appli Radio France, sans oublier la page Facebook de l'émission. Bonjour Thierry Lhermitte.
Bonjour Ali.
Ambassadeur très investi de la Fondation pour la Recherche Médicale, que France Inter soutient activement. Quel labo de recherche avez-vous visité ce mois-ci ?
Le laboratoire et le projet de Elsa Isangrini qui étudie les conséquences de la maltraitance infantile sur le cerveau.
A tout à l'heure Thierry, bienvenue dans Grand Bien vous fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter, Grand Bien vous fasse, Ali Rebbi.
Bonjour Maurice Cheval.
Bonjour.
Vous êtes chercheur en neuropsychologie de santé, en psychologie du sport et en épidémiologie sociale. Vous êtes maître de conférence à l'École normale supérieure de Rennes et vous avez publié chez Dunod Poche avec le neuroscientifique à l'Université d'Ottawa, Mathieu Bois-Gontier, le syndrome du paresseux, comment combattre notre inactivité physique. Bonjour Lucille Woodward.
Bonjour.
Vous êtes journaliste santé, professeur de fitness et coach sportive, mais également créatrice de contenu fitness très suivi sur Instagram et YouTube et on peut télécharger votre application Lucille Woodward. Bonjour docteur Anne Sénéquier.
Bonjour.
Vous êtes psychiatre et pédopsychiatre, chercheuse à l'IRIS, l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques. Dernier livre paru chez Mango Éditions, L'anxiété de mon enfant, qui peut également servir aux parents.
Hein. Aux adultes, à tous les âges en fait, parce qu'une fois qu'on a compris le mécanisme de l'anxiété, eh bien, ce sont des outils qu'on utilise ad vitam, donc ça marche très bien pour les adultes également.
Bonjour professeur Martine Duclos.
Bonjour Ali.
Experte éclairée de cette émission, vous êtes endocrinologue, chef du service de médecine du sport au CHU de Clermont-Ferrand et présidente de l'ONAPS, l'Observatoire National de l'Activité Physique et de la Sédentarité. Et on commence avec vous, ma chère Martine. J'aimerais faire un point sur ces fameuses endorphines, ces neurotransmetteurs qui procurent un certain bien-être à notre organisme. Ces endorphines, ce sont des opiacés de la même famille que la morphine, connus pour leurs vertus antalgiques, c'est la même chose ?
Tout à fait. En fait, c'est des peptides opioïdes endogènes. Donc, en fait, on sécrète nos propres opioïdes qui vont, en fait, diminuer la douleur, moduler l'humeur dans le sens positif, en contre l'anxiété, avec une sensation de bien-être. Donc, on produit notre propre morphine, mais en plus, on produit notre propre cannabis. C'est-à-dire, on produit aussi ce qu'on appelle des endocannabinoïdes qui sont produits par le cerveau et qui vont agir sur le cerveau. Même chose, ils agissent sur différents noyaux du cerveau, sur l'amygdale qui est impliquée avec l'émotion et l'anxiété, donc en diminuant l'anxiété, sur le nucléus accumbens qui est impliqué dans la récompense, mais aussi sur l'hippocampe qui est impliqué dans la mémoire et la plasticité synaptique. Enfin bref, puis il y a plein d'autres noyaux, donc en gros ces endocannabinoïdes, ces cannabis endogènes, eh bien, est impliqué dans la récompense, dans la diminution de la douleur, dans le plaisir, mais aussi dans effectivement la neurogénèse, la plasticité synaptique. Donc il y a des effets aigus, mais il y a des effets aussi à long terme. Donc vous voyez, vous comprenez que quand on fait de l'exercice, on est baigné par de l'opium, par du cannabis, de la morphine. Vous comprenez qu'on puisse être bien quand on fait de l'activité physique.
C'est l'hypophyse qui sécrète toutes ces substances ou il y a d'autres aires cérébrales qui sécrètent ces substances ?
Alors, il y a un petit peu d'hypophyse, mais surtout, il y a des aires cérébrales. Donc, ça veut dire, si c'est par l'hypophyse, ça passe dans le sang. Mais il y en a très peu qui passent dans le sang et qui ont un effet systémique. La grande partie est produite par des noyaux cérébraux, en particulier le noyau arché, qui est un grand noyau régulateur du métabolisme énergétique. Et d'autres noyaux, comme je viens de vous le dire, donc comme par exemple le nucleus accumbens impliqué dans la récompense. Et donc, ça a des effets purement locaux au niveau du cerveau. Donc ça explique ces effets centraux sur la douleur, sur la récompense, sur le bien-être. Et donc ça veut dire aussi que les gens qui mesurent les concentrations dans le plasma, dans le sang, c'est un mauvais reflet de ce qui se passe dans le cerveau.
Alors quand on pratique, professeur Duclos, une activité physique ou sportive, au bout de combien de temps ces endorphines se libèrent-elles dans l'organisme ?
Alors, quand on fait une activité d'intensité modérée à élevée, typiquement la course à pied, il faut au moins plus de 30 minutes. Donc, c'est à peu près le temps. Sauf si vous faites de l'exercice très intense. Alors, typiquement, ce qui est très à la mode actuellement, c'est le bref intermittent. C'est ce qu'on fait quand on fait du crossfit. Là, vous allez en avoir assez rapidement. Donc, normalement, c'est l'endurance, donc 30 minutes, avec un effet qui se prolonge à l'arrêt de l'exercice pendant plusieurs minutes. Mais ça peut durer plusieurs heures, ça dépend de la durée que vous avez donnée à votre exercice. Ou quand c'est très très intense, là aussi, vous pouvez, sur un exercice très intense, en relarguer. Alors, typiquement, on dit que c'est la course à pied, hein, le vélo aussi. Mais la danse, ça peut marcher, parce que vous pouvez faire de la danse aussi de façon très intense. Voilà, donc en fait, il y a plein d'exercices. Bon, par contre, ça ne marche pas quand vous faites de la marche lente ou quand vous faites du shopping, hein, du lèche-vitrine, ça ne marche pas.
Et c'est donc pour cela que nous nous sentons bien au bout de 20 minutes, 30 minutes de course à pied, de vélo. Mais combien de temps dure cet état de bien-être, cette euphorie ? Ça dure combien de temps après avoir fait du sport, après avoir fait une activité physique ?
Alors, ça dépend de la durée de l'activité physique, mais généralement, ça dure au moins 30 minutes à une heure, voire plusieurs heures. Ça dépend vraiment, alors, un, de ce que vous avez fait comme activité, de votre niveau d'entraînement, plus vous êtes entraîné, plus ça peut durer longtemps. Et puis, troisièmement, de la condition dans laquelle vous avez fait de l'activité. C'est-à-dire, si c'est une activité que vous aimez, vous l'avez fait dans un contexte social, avec des gens, dans un contexte sympa, avec du monde, ça va durer encore plus longtemps.
Lucille Woodward,
donc ça peut durer assez longtemps.
Lucille Woodward, votre taux d'endorphine doit être au taquet, non ?
Oui, absolument. moi, je voulais quand même apporter un petit bémol en tant que professeur de fitness. Je me rends compte que les effets positifs arrivent quand même assez vite. Il n'y a pas forcément besoin de faire 30 minutes ou plus, et même beaucoup d'intensité. Parfois, juste, on allume la musique, on danse un peu devant son miroir avec ses enfants, en sautant dans tous les sens, et on se sent super bien, et ça a duré juste 3-4 minutes. Donc, c'est peut-être pas le bain hormonal, sérotonine, endorphine, dopamine d'un seul coup, mais malgré tout, tout de suite, dès qu'on bouge, on se sent beaucoup mieux au bout de 3-4 minutes.
Martine Duclos ?
Tout à fait, je suis tout à fait d'accord, parce que là, il y a aussi d'autres éléments. On produit aussi, le muscle va produire des hormones qu'on appelle les myokines, qui peuvent agir aussi au niveau du cerveau. Il y a la dopamine qui est produite très très vite, donc il y a beaucoup d'autres éléments que ces endorphines ou ces endocannabinoïdes qui vont être relargués. Donc de toute façon, pour moi, dès que vous sortez de votre canapé ou de votre fauteuil, que vous vous mettez debout, que vous bougez, et qu'encore plus, vous allez dehors et que vous avez la chance d'avoir du soleil et du vert, vous êtes bien. Bon, vous êtes moins anxieux, moins stressé et moins déprimé si malheureusement vous avez tendance à être déprimé.
Boris Cheval.
Oui, je peux répondre sur ça, sur les données de la littérature. Là, on est vraiment sur l'hypothèse qu'on appelle neurobiologique, donc le fait que l'activité physique va libérer un ensemble de substances. Il ne faut pas oublier aussi qu'on a l'hypothèse psychosociale, donc tous les bénéfices au niveau psychologique, sentiment d'auto-efficacité, amélioration de la régulation des émotions, de la résilience, réduction de la perception de fatigue. Et ça amène aussi à l'idée que toute activité physique ne va pas forcément être bonne pour la santé mentale. Il faut s'assurer qu'il y a une qualité de l'expérience et donc les émotions positives vont rentrer dedans. Donc vraiment deux hypothèses neurobiologiques, mais il y a aussi tout l'aspect psychosociologique qu'il ne faut pas oublier.
Anne Sénéquier.
Oui, on parle de neurophysiologie, moi j'ai envie de parler un petit peu d'évolution. Il ne faut pas oublier non plus que nous sommes encore chasseurs-cueilleurs dans notre physiologie, dans notre comportement.
En fait, elle n'a pas beaucoup changé cette physiologie depuis l'époque des chasseurs-cueilleurs.
Sapiens sapiens, ça a 250 000 ans, ça fait 10 000 ans un peu ou prou qu'on est éleveur et sédentaire. Et c'est vrai que ces 50 dernières années, et plus particulièrement ces 30 dernières années, nous ont véritablement cloués sur un fauteuil, voire un canapé. Et l'arrivée des écrans, le soir, maintenant, on ne va plus forcément sortir avec les amis danser ou faire un match de tennis. On va se mettre devant une plateforme de streaming et rester là. Parce qu'en fait, il y a une récompense là aussi, c'est la récompense immédiate. C'est qu'on est vraiment dans l'effort zéro, tout en ayant une récompense. Sauf qu'il y a une problématique de temporalité, il y a effectivement une récompense immédiate. Mais sur le long terme, c'est vraiment le couperet, parce qu'aujourd'hui, on a 96% en Europe des décès prématurés qui sont dus à ces maladies non transmissibles et qui sont dus à la sédentarité, à nos comportements du quotidien. Donc oui, effectivement, on parle de sport, moi j'aurais envie de dire activité physique. Donc oui, peut-être qu'on n'est pas dans le nirvana des cabaninoïdes et compagnie dès qu'on marche dehors, mais c'est vrai que voir la lumière du jour, parce que ce n'est pas le cas pour tout le monde aujourd'hui dans la ville dans laquelle on vit, avoir une activité physique, c'est-à-dire aller jusque peut-être à la station suivante en marchant, prendre les escaliers.
La station de métro ou de bus.
Voilà. Tout ce qui va rajouter de l'activité physique au quotidien est toujours bon à prendre. Alors c'est sûr qu'après on peut se challenger un petit peu et c'est une récompense supplémentaire d'aller un petit peu plus haut, de se relancer, de finalement peut-être aller faire ce hockey sur glace qu'on rêve depuis 20 ans. Eh bien, même en tant que senior, c'est-à-dire plus de 30 ans, on peut y aller.
Lucille Woodward.
Oui, j'insiste moi sur la notion de plaisir. Quand on n'a pas envie et qu'on se dit c'est impossible, j'arriverai pas à faire du sport, je déteste. Moi par exemple, parfois j'ai ces témoignages j'ai toujours détesté le sport c'est pas pour moi, j'ai jamais aimé le sport, c'est des mots comme ça parfois que j'entends de ma communauté ou de mes adhérents. Il faut tout de suite aller chercher le plaisir et parfois c'est vrai qu'à la télévision et d'autant plus en ce moment avec les compétitions internationales, on voit toujours des sportifs vraiment dans la douleur, très difficile, ça a l'air tellement dur ce qu'ils font, c'est très beau mais ça a l'air tellement difficile, on se sent un peu nul. Et donc, aller chercher le plaisir, peu importe si un sport est à la mode ou pas, si vous préférez faire de la danse salsa dans un salon, ou promener votre chien avec vos trois voisins, ou faire du skateboard parce que c'était ça que vous aimiez quand vous étiez ado, allez-y. Et très souvent, d'ailleurs, le sport d'enfance, le sport qu'on a pratiqué avec ses amis quand on était en primaire ou en collège, c'est le meilleur sport à refaire en tant qu'adulte parce que c'est celui qui nous remet, en fait, dans cet état de plaisir d'enfance et de joie.
Oui, Boris, ça fait écho à ce plaisir d'enfance.
Boris Oval.
Ça, on le répétera jamais assez. Si l'activité physique, vous pensez ne pas l'aimer, si vous n'avez pas suffisamment essayé, il y a toujours une activité physique qui va plaire. Vous pouvez aimer courir, vous pouvez aimer faire du cheval, vous pouvez aimer marcher, vous pouvez aimer faire des sports collectifs. Donc il y a un sport à un moment donné qui va bien fonctionner. Et ce qu'on aime bien aussi rappeler, c'est que finalement, des fois, l'activité physique, c'est une excuse pour, par exemple, aller voir des amis, discuter, etc. Donc c'est pas forcément le mouvement en tant que tel que vous allez rechercher, mais c'est le contexte qu'il y a autour. Donc, encore une fois, et ça, il faut toujours le répéter, si l'activité physique n'est pas plaisante, il n'y aura pas de maintien à long terme. Donc, cherchez une activité qui vous fait plaisir dans l'ici et le maintenant.
Ce qui est important aussi, bon là je pense qu'il faut aussi rapporter les conditions médicales. Tout le monde n'ira pas faire du footing au-dessus de 75 kilos. Vous ne reprenez pas le footing comme ça n'importe comment parce que vos genoux ne vont pas vous dire merci assez rapidement. Et il faut penser aussi qu'on a des vies véritablement trépidantes. Parfois on n'a pas le temps en fait, de faire du sport. Et c'est là où on peut repenser et reconnecter avec ce qui se passe aujourd'hui dans la ville de Paris, c'est-à-dire les mobilités actives, que ce soit la marche, que ce soit le vélo. Parce que le but, ce n'est pas de faire le Tour de France le matin en allant au boulot, mais c'est de mettre une activité physique qui va permettre aussi de faire un petit sas de décompression entre ce qui se passe à la maison. Je me prépare pendant mon trajet vélo de 10, 20, 30 minutes pour être au taquet au boulot. Et le soir, pareil, je lâche pendant cette petite balade, parce que ça doit être une balade justement, et je me reconnecte véritablement à ma vie familiale. Et c'est vraiment au quotidien, ce qu'évoquait le professeur tout à l'heure dans l'endocrinologie, ce petit bain d'endorphine au quotidien va véritablement permettre de diminuer au maximum le fond anxieux dans lequel on baigne aussi malheureusement tous les jours.
Thierry Lhermitte.
Moi, je trouve qu'il y a un exemple formidable dans le livre de Boris, Le syndrome du paresseux. C'est les gamins qui veulent pas aller, enfin, qui veulent les bras pour aller à l'école et qui traînent. Et non, c'est fatigant de marcher. Et puis, on les met dans la cour. Et là, c'est parti pour 2 heures. On peut pas les arrêter.
Exactement.
Donc, ça veut dire que quand c'est marrant, c'est chouette à faire. Moi, honnêtement, tous les sports que j'ai fait, j'en ai fait énormément. Si c'est pas marrant, je déteste carrément ça. Et dès que c'est marrant, j'oublie que c'est un effort physique.
C'est ça, c'est l'effort, on pourra en parler, mais c'est un coût au niveau neuronal, donc c'est traité comme une expérience aversive. Donc il faut que le comportement vaille le coût de l'effort. Mmh. Et si ça ne vaut pas le coup, on va se désengager. On pourra en parler sur la dépression, mais le coût de l'effort, il est plus élevé chez les patients dépressifs. Donc c'est plus difficile aussi de les engager. Donc si vous dites à un patient qui est en situation de dépression de sortir et de bouger, il ne va pas forcément pouvoir le faire comme ça. Donc il faut toujours vraiment réfléchir à qu'est-ce qu'il va gagner et comment on va contrer ce coût de l'effort.
Lucie Woodward.
Oui, et parfois, pour se donner un petit coup de boost pour justement bouger, on met de la musique. Parce qu'en fait, on a montré scientifiquement que la musique permet en fait de diminuer la perception de l'effort. Donc, par exemple, pour les personnes qui doivent aller courir ou promener le chien, il ne fait pas beau, et bien finalement, on met d'abord une musique qu'on adore à la maison, peu importe laquelle, et hop, ça nous motive beaucoup plus, et ça va être beaucoup plus facile de faire le pas. Parce que souvent, finalement, le plus dur dans le sport, c'est les 30 premières secondes de s'habiller et de se dire j'y vais. Une fois qu'on y est, finalement, peu importe ce qu'on fait, c'est bien.
Anne Sénéquier.
Oui, ce que vous évoquiez, Boris, tout à l'heure, c'est moi, je le conceptualise comme l'effort inutile n'existe pas. Et effectivement, si vous voulez véritablement demander à quelqu'un de faire un effort, il va falloir lui trouver un intérêt. Alors parfois, on lui dit, mais c'est bon pour la santé. Oui, mais enfin, moi, la santé, je m'en fiche. C'est bon, il faut faire du sport. Oui, mais ça aussi, je m'en fiche. Et en fait, ça vient de notre économie du geste, parce qu'on retourne, en fait, dans cette histoire de chasseur-cueilleur. Parce que finalement, on avait une quantité d'énergie limitée et qu'il fallait lutter véritablement pour pouvoir trouver cette nourriture. Donc aujourd'hui, on fonctionne encore comme ceci, et c'est ce qui explique aussi que c'est compliqué pour les patients qui peuvent avoir une véritable dépression, parce que dans la dépression, en fait, on ne ressent plus l'intérêt de faire les choses. Et là où on va vous dire, trouve un intérêt, vous n'avez plus la possibilité de trouver un intérêt, et c'est là où ça peut être compliqué.
Si je comprends bien, Boris Cheval, si faire de l'activité physique s'accompagne de plaisir, de bien-être, voire d'un sentiment de fierté, eh bien notre cerveau va chercher à renforcer l'engagement dans cette activité. C'est un cercle vertueux.
Exactement. Ça veut dire que le cerveau, il traite l'effort comme un coût, mais en termes de balance coût-bénéfice, donc il y a le coût de l'effort et il y a le bénéfice qui va être associé. Donc on accepte de s'engager parce que ça en vaut le coût, ça en vaut le coût de l'effort. Donc c'est toujours cette idée de balance, et à partir du moment où la récompense n'est pas suffisamment élevée par rapport au coût, vous allez, en tout cas à moyen terme, vous désengager.
C'est ce qui fait aussi que quand on commence à faire du sport régulièrement, tous les jours véritablement, à la même heure, rapidement, vous avez besoin d'y retourner. Et on le voit très. Enfin, les gens qui courent à la même heure tous les soirs, les mêmes cours dans les salles de sport. Et alors, on peut dire, c'est une sorte d'addiction, c'est un peu vrai, c'est l'addiction naturelle dont dévoilait le professeur tout à l'heure. Mais vous partez en vacances, finalement, elle disparaît, cette addiction. Et il faut la relancer, mais ça se relance assez rapidement.
Professeur Larson Duclos, vous devez nous quitter. Un petit mot, peut-être, avant de partir à vos activités.
Oui, alors je tique toujours quand il y a le mot addiction, parce que pour les gens qui font pas d'activité physique, très vite ils disent ouais mais le sport, attention, on devient addict. Donc je sais que ça n'a pas du tout été dit dans ce sens-là, mais le risque d'addiction est quand même extrêmement faible, ça existe, mais c'est quand même sur des personnalités particulières, et c'est souvent des gens qui peuvent transformer une addiction, par exemple des gens qui fumaient beaucoup, qui arrêtent le tabac et qui se mettent à la course, là, à danger, parce qu'effectivement ils peuvent devenir addicts, mais le risque d'addiction est quand même extrêmement faible. Et la deuxième chose que je voulais dire, vous parliez de la musique, il y a des études qui ont montré, ça c'est très intéressant. C'est-à-dire, la musique peut nous aider aussi à progresser en intensité. Oui. C'est-à-dire que quand on met des gens qui ne font pas du tout d'activité physique, vous avez raison, la musique, ça nous donne un rythme. Et quand on donne une musique un peu plus rapide, eh bien, les gens inconsciemment calent leur pas sur le rythme de la musique. Donc, si vous mettez une musique un peu plus rapide que votre pas naturel, bien sûr, si vous arrivez à suivre, inconsciemment, vous vous mettez à marcher un peu plus rapidement. Donc, il y a plein de petits trucs comme ça. Effectivement, marcher avec de la musique, c'est très sympa. eh bien, voilà, un moyen prouvé scientifiquement, comme la télé, vu à la télé, eh bien, prouvé scientifiquement, voilà, un bon rythme que vous aimez bien, ça vous aide à aller un peu plus vite.
Merci beaucoup, professeur Martine Duclos. Dans un instant, on continue à s'intéresser aux bienfaits de l'activité physique et sportive sur l'anxiété ou la dépression. N'hésitez pas à nous raconter comment l'activité vous a permis d'aller mieux psychologiquement, au standard et sur WhatsApp au 01 45 24 7000. Allez, on écoute She Drives Me Crazy, une chanson de Fine Young Cannibals, sortie en 1988, 10h24 sur Inter. She drives me crazy, Fine Young Cannibals.
Ali Rebéi. Grand bien vous fasse sur France Inter.
Stress, dépression, anxiété, comment l'activité physique et sportive peuvent nous aider à aller mieux. Et nous accueillons Frédéric. Bonjour Frédéric.
Bonjour Ali.
Bonjour, vous appelez de Paris, c'est ça?
Oui, tout à fait, je vous appelle de Paris.
Quel est votre témoignage?
Alors, moi, je voulais donner mon témoignage comme à la fois comme papa et puis comme fondateur d'une association qui s'appelle Je bouge pour mon moral, que l'activité physique, c'est effectivement une fantastique prévention. On en a parlé avant avec vos invités, mais c'est aussi un outil thérapeutique incroyable quand on a des troubles psychiques, que ce soit la dépression, l'anxiété, l'épuisement professionnel, voilà, tous les troubles psychiques. Voilà, moi j'ai accompagné mon fils qui avait 20 ans à un moment du Covid dans une dépression, et puis je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de littérature sur l'effet de l'activité physique comme un médicament, un outil thérapeutique, que c'est recommandé comme thérapie de première intention sur les dépressions légères à modérées, et puis en thérapie complémentaire pour les dépressions plus sévères. Et en même temps, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de pratique, de cadre qui était vraiment adapté aux besoins des personnes en souffrance psychique. C'est-à-dire que c'est vraiment compliqué pour une personne de se mobiliser quand on est en dépression. Il y a le problème de la peur du regard des autres, la peur de l'échec, le manque de motivation, d'énergie, voilà. Et c'est ce qui m'a poussé à créer l'association et puis un programme qu'on a conçu pour vraiment répondre aux besoins des personnes en souffrance psychique et pour leur permettre de reprendre l'activité physique et d'en faire un levier, un outil pour leur rétablissement. Voilà.
Que proposez-vous concrètement au sein de votre association ?
Alors aujourd'hui, on est présent dans le Grand Est, on est dans 11 villes du Grand Est et bientôt on va être à Lille, à Bordeaux, enfin dans plusieurs villes de France. Et en fait, on fait un programme de 12 semaines. Alors il y a de la marche nordique ou du cross-training qui est accompagné par des professionnels de l'activité physique adaptée qui sont eux-mêmes formés à la santé mentale et qui se fait entre pairs. Donc c'est vraiment un accompagnement collectif où les gens commencent ensemble, finissent ensemble et ils vont se soutenir s'entraider pour se motiver à pratiquer et ensemble aller vers leur établissement. Donc c'est 12 semaines de pratique encadrée et ensuite pendant 12 mois, on va aider les gens à aller vers les clubs, les associations sportives locales, aussi proposer des activités au sein de la communauté pour que les gens continuent à pratiquer, quoi. Les 12 premières semaines, c'est pour aller vite mieux, se sentir mieux, reprendre confiance en soi, sortir de l'isolement. Et puis après, c'est vraiment l'objectif, c'est d'aider les gens à en faire une pratique durable, hein, pour prévenir les rechutes et puis voilà, puis promouvoir la santé de manière globale, quoi.
Lucille Woodward.
Oui, félicitations pour cette action. Je trouve que on a du mal à pratiquer en France seulement en niveau loisir dans les clubs et notamment pour les enfants. Donc moi je suis maman de deux enfants qui ont 11 et 14 ou 11 et 15. Et donc en pratique comme ça, ado, jeune ado, c'est très compétitif dans tous les clubs, hein, même les amis de mes enfants, que ce soit le basket, la natation, le judo ou l'athlétisme, on a du mal à avoir juste une pratique loisir. Alors certains clubs le font, mais quand même beaucoup sont très dans la compétition et ça peut dégoûter les adolescents. Notamment les adolescentes filles qu'on voit vraiment décrocher le sport à l'adolescent chez les filles. Et donc ensuite, moi, je me retrouve avec des adultes qui pensent ne pas aimer le sport et disent n'ont pas trouvé le plaisir dans l'activité sportive parce que justement, en fait, il y a eu trop cette compétition, cette notion de performance. Et donc, des actions comme nous explique cet auditeur sont très bénéfiques. Et c'est dommage, finalement, que ça n'existe peut-être que pour des adultes. Et ça serait super de pouvoir l'avoir un peu plus pour les enfants.
Frédéric, rappelez le nom de votre association.
Je bouge pour mon moral, voilà.
Anne Sénéquier, je rappelle que vous êtes psychiatre et pédopsychiatre.
Ce qui est important aussi, c'est de ne pas forcément attendre que ça n'aille pas pour penser l'activité physique, parce que l'activité physique, avoir une bonne activité physique, maintient aussi, nous protège des maladies somatiques du corps. Et il y a un adage qui dit que quand on est en bonne santé, on a plein de problèmes, et quand on est malade, on n'a plus qu'un seul problème. Donc en fait, il va falloir aussi utiliser cette santé au sens global, physique, mais aussi mentale. Et c'est vrai que l'activité physique au quotidien, parce que finalement, la vie d'aujourd'hui est assez complexe, que ce soit avec le travail, que ce soit avec les embouteillages, avec la vie familiale, avec les problématiques des écrans. Enfin, on a une accumulation de cadres de contraintes qui laissent notre espace psychique, c'est-à-dire notre mémoire vivre, notre RAM, mais complètement exsangue aujourd'hui. Et c'est ce qui génère ça, c'est l'anxiété, en fait. Donc aujourd'hui, on nous dit encore, ah ben oui, on a une dépression, donc il faut traiter la dépression, faisons du sport et tout ça. Non, mais en fait, c'est dans notre vie au quotidien qu'il va falloir apprendre finalement à décortiquer un petit peu tout ça et voir sur quoi on peut agir. Et si je me permets encore 2-3 minutes, on ne peut pas le faire tout seul. Parce que il faut des clubs de sport, il faut des pistes cyclables, il faut tout ça. Et ce n'est pas seulement de la responsabilité de l'individu, mais c'est aussi des politiques publiques, quasiment des politiques de santé publique finalement, de maintenir les gens en bonne santé. Et quand on allume la télé, je suis désolée, mais moi je vois des pubs de quoi ? Des fast-food, des voitures qui nous maintiennent dans le truc qu'il faut manger gras tous les jours et qu'il faut avoir cette sédentarité acquise.
Boris Cheval.
Oui, sur la compétition, c'est vrai que malheureusement le modèle sportif, bah, il est compétitif, c'est ça qu'on insiste sur l'activité physique et pas le sport. On n'est pas contre la compétition en tant que telle, hein. C'est vrai que c'est un levier de motivation. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'on va pouvoir mettre des gens sur le côté si on n'est que dans l'aspect compétitif. Donc logiquement, si les encadrants, les entraîneurs sont bien formés, il y a effectivement l'aspect compétitif, mais il y a l'aspect amélioration et apprentissage, où l'enfant, ou les adultes d'ailleurs, vont se comparer avec eux-mêmes dans le temps et vont développer ce sentiment de compétence. Donc oui, on peut avoir de la compétition, mais ce qui est fondamental, c'est de montrer aux gens les expériences de maîtrise, les expériences de compétence. Et si vous sentez compétent, c'est un besoin psychologique fondamental, le besoin de compétence. Derrière, vous allez vous réengager et à long terme, finalement, dans le comportement. Donc, on n'est pas contre la compétition, mais ça ne doit vraiment pas être l'exclusivité.
Docteur Anne Sénéquier, est-ce que l'activité physique peut vraiment aider à réduire l'intensité d'un épisode dépressif ?
Alors, il faut déjà définir ce que c'est un épisode dépressif, et c'est une accumulation de symptomatologie, c'est une fatigue, c'est une tristesse, c'est une anxiété très importante, c'est une anhédonie. Alors, l'anhédonie, c'est quoi ? C'est l'absence de ressentir le plaisir de faire les choses. Par exemple, j'adorais aller faire de la barque, et bien là, quand j'y vais, bon, ça ne me transcende plus. Donc, tout ça, des troubles du sommeil aussi. Donc, en fonction de l'intensité de ces symptômes, eh bien, on va avoir une dépression légère, modérée ou sévère, avec parfois un tableau où on n'a plus aucune énergie. Et la problématique, c'est qu'on utilise la même sémantique, le même vocabulaire quand on est déprimé et quand on a juste un coup de mou. C'est-à-dire, j'ai pas envie, je suis fatigué. Et ça complexifie la reconnaissance de la santé mentale, parce que déjà pour vous, bah, c'est comme quand vous êtes un peu down. Et pour l'environnement, eh bien, bah, on parle de la même chose. Et c'est là où il va falloir véritablement peut-être introduire de nouveaux vocabulaires et travailler cette reconnaissance de la santé mentale. Parce que le problème, c'est que si on ne fait rien, eh bien, elle a tendance à s'enraciner. Et là, ça devient véritablement problématique.
Alors, pardon, Boris Souval.
Oui, moi, je peux répondre là. Donc, François Carré, on lui a commandé un rapport au ministère de la
médecin,
Santé, activité physique et santé mentale. Donc là, le rapport, il est presque fini, on espère. Et clairement, les données quand même montent dans l'ensemble, pas pour toutes les pathologies, mais en tout cas pour la dépression plutôt non sévère, on discutait légère. Les preuves sont quand même relativement robustes, donc l'activité physique va améliorer la santé mentale. En épidémiologie, on aime bien avoir des liens entre la variable d'exposition, donc ici activité physique, et la conséquence, ici santé mentale. On aime mieux avoir un modèle mécaniciste, c'est-à-dire un modèle qui va expliquer pourquoi on a ce lien entre activité physique et santé mentale. Et dans le cadre de la santé mentale, on a à la fois la voie neurobiologique qu'on a discutée tout à l'heure, et puis la voie psychosociologique sur le sentiment d'auto-efficacité, l'amélioration de la résilience, etc. Donc on est relativement serein quand vous êtes dans un état de dépression léger, que l'activité physique va être vraiment un support pour votre amélioration.
Léger, ça veut dire que la symptomatologie est fluctuante, qu'on a toujours la possibilité de se mobiliser et toujours l'envie de faire quelque chose.
Alors, une méta-analyse publiée en février 2024 par le British Medical Journal qui compile 218 études auprès de 14 170 participants révèle que la danse réduit fortement la dépression, que la marche ou le jogging ont un effet modéré et que le yoga et le renforcement musculaire produisent un effet modéré. Docteur Anne Sénéquier.
Là, je pense qu'en fait, c'est véritablement en fonction de votre propre appétence envers la danse, le yoga ou quoi que ce soit. Si votre truc, c'est l'escrime, eh bien, il faut continuer l'escrime, en fait. Et ce facteur appétence vis-à-vis du disport, le facteur social, le fait de le faire avec les copains, le fait de la facilité que ça soit possible, eh bien, tout ça va avoir plus d'influence que sur le type de sport après, parce que ces sports-là, ils combinent le côté somatique et le côté psychologique.
Lucie Woodward, je vous rappelle que vous êtes coach sportive, vous êtes un peu dubitative.
Oui, en fait, on me demande très souvent quel est le meilleur sport pour, quel est le meilleur. Il n'y a pas de meilleur sport, il n'y a pas de hiérarchie dans les sports. Si vous aimez le foot, la danse, l'escalade qui est très à la mode aussi en ce moment par exemple, tout est bien en fait, hein. Il n'y a pas de hiérarchisation. Le plus important, le meilleur sport, c'est celui que vous avez envie de refaire demain ou la semaine prochaine. Après, c'est vrai que idéalement, avoir un peu d'intensité cardiovasculaire, un peu de renforcement musculaire et un peu d'étirement via le yoga, c'est bien. Mais au départ, c'est n'importe quel sport, eh bien, dans la mesure où on a envie de le refaire.
Boris Cheval, comment se motiver quand on subit un épisode dépressif? Comment on s'y prend? Parce qu'on n'a pas vraiment envie d'activité physique, de sport. La motivation est réduite à néant.
Alors, elle n'est pas forcément à néant, mais en tout cas, c'est plus difficile. Alors, déjà, pour la population globale, hein, c'est compliqué. On a 30% de prévalence d'inactivité physique. On a ce qu'on appelle une pandémie d'inactivité physique. Hein. C'est un mort tous les 6 secondes dans le monde associé aux causes du manque d'activité physique. Donc, on a vraiment une situation problématique. Et sur les personnes qui sont en situation de dépression, ça va être encore plus difficile. Donc, il faut qu'il y ait un gain qui arrive. Mais surtout, là, je vais insister, il faut que vous soyez encadré par quelqu'un qui va vous aider pour vous initier le comportement. Tout seul, j'ai un peu de mal à croire que vous allez réussir. Donc, il faut vraiment vous entourer de gens qui vont vous aider et vont vous aider à enclencher le comportement. Une fois que vous enclenchez le comportement, vous allez voir, va y avoir des bénéfices. Vous allez vous sentir mieux, vous allez un petit peu mieux dormir, vous allez avoir une régulation de votre humeur et il va y avoir un cercle vertueux qui va se mettre en place. Donc j'insiste vraiment sur l'idée, dans cette situation, il faut plutôt quand même se faire aider par des professionnels de santé.
Et juste pour revenir sur la danse, c'est vrai que ça combine finalement beaucoup d'aspects, c'est-à-dire tu as un coach, quoi qu'il arrive, tu as un prof de danse, tu ne peux pas faire danser tout seul, tu as un groupe. Tu as aussi un rapport avec ton corps, donc on se voit dans le miroir, on voit son corps bouger, c'est beau dans le groupe, donc ça augmente aussi la satisfaction personnelle. Il y a la musique, cette dimension dont on parlait dès le début de l'émission, donc finalement ça met beaucoup de choses ensemble qui font que ça a des vertus antidépresseurs.
Merci beaucoup Frédéric de nous avoir appelé, nous accueillons Karina. Bonjour Karina.
Oui, bonjour.
Bonjour, d'où appelez-vous Karina?
Bonjour Annie, bonjour à tous.
Bonjour.
J'appelle de Blois, dans le Loir-et-Cher.
Alors vous, l'activité physique et sportive a été bénéfique pour réduire votre stress chronique, c'est ça?
Oui, c'est ça. En fait, j'ai fait un burn-out il y a quelques mois, presque un an. J'étais dans un état complètement, effectivement, stressé d'accumulation de temps de travail où il n'y avait plus que ça qui comptait dans ma vie et je n'avais plus le temps ni l'énergie de faire du sport. Quand j'ai fait ce burn-out, bon, j'étais en état de choc hein, pendant 15 jours où je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Et puis, il y a un ami qui m'a dit, allez, il faut te sortir du lit et viens à la salle de sport, rendez-vous à 7h du matin. Alors là, c'était très dur. Mais j'y suis allée et en fait, ben, c'est devenu ma routine pendant tout le temps de mon arrêt de travail. Donc, chaque matin à 7h, j'étais à la salle et c'était pour faire des efforts raisonnables, hein, mais me remettre un peu en condition avec du cardio, un petit peu de renforcement musculaire sur un temps de 30 minutes, 3 quarts d'heure, pas plus. Mais en tout cas, chaque jour, du lundi au dimanche, c'était 7 jours sur 7.
Merci
et ça,
pour...
ça m'a sauvé.
Ah, mais c'est fort ce que vient de nous dire notre auditrice Karina, docteur Anne Sénéquier.
Oui, c'est vrai, elle mobilise les éléments qu'il faut, hein, finalement. Des amis proches, les interactions sociales sont très importantes là-dedans. Quelqu'un qui va pouvoir la sortir du lit, et à 7 heures, c'est pas gagné quand même pour aller à la salle. Mmh. Et une activité modérée. Donc elle est allée trouver du plaisir finalement là-dessus. Et il faut dire que, fur et à mesure, en fait, ça va rétablir l'estime de soi qui est véritablement très problématique dans ce burn-out, parce que burn-out, ça veut dire j'arrive plus à jongler avec tout ça. Et elle n'a pas parlé si elle avait des enfants ou quoi, mais c'est le profil assez typique finalement, pas forcément des burn-out, mais des craquages. C'est souvent des femmes qui ont des enfants, une activité professionnelle et qui veulent jongler avec tout et qui ont du mal finalement à déléguer ceci et cela et aussi à prendre du temps pour soi, parce que souvent c'est l'individu même qui, eh bien, qui part dans les affres de la logistique. Donc on est une bonne professionnelle, on est une bonne mère, on est une bonne épouse, on est une bonne fille, mais alors nous-mêmes, alors on s'oublie complètement et ça finit comme ça.
Et pourquoi l'activité physique et sportive, pourquoi ça agit sur le stress chronique ?
Ben c'est ce que disait le professeur en début de session. En fait, toutes ces endorphines qui viennent générer justement ce circuit de la récompense, de la dopamine, qui sont des neurotransmetteurs. Et dans la dépression, la problématique, c'est justement une diminution des neurotransmetteurs. Donc ça permet d'acheminer l'information jusqu'au centre du plaisir, et on l'a dit que c'était la problématique dans la dépression. Après, il y a une réduction de l'inflammation et du stress, une réduction du cortisol qui est justement une problématique aussi de stress. Et puis, encore une fois, on fait une activité physique, on va dormir plus facilement le soir, parce que, on n'en a pas parlé, mais problématique de santé du 21e siècle, c'est aussi les problèmes de sommeil, tout simplement parce qu'on ne bouge pas assez.
Et c'est le même mécanisme que pour l'anxiété ?
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire le fait que l'activité physique réduise l'anxiété ?
L'activité physique réduit l'anxiété, oui, à travers justement, c'est exactement tout ça. À partir du moment où vous récupérez un sommeil, et là c'est très compliqué en ce moment d'avoir cette accumulation en fait. Activité physique, bon sommeil, si vous avez déjà regagné ça, vous êtes clairement sur la bonne piste.
Boris Cheval.
Oui, et puis peut-être ça permet aussi d'aborder l'idée que là on parle plutôt de prévention secondaire. L'événement donc là de burn-out est arrivé, on va essayer de corriger un petit peu le tir. Et puis il y a aussi ce qu'il ne faut pas oublier, la prévention primaire. On peut démontrer que l'activité physique en entreprise va réduire les problématiques de burn-out. Donc pareil, hein, les ressources humaines, etc., pour essayer d'intégrer du mouvement de façon préventive dans l'entreprise. Et encore une fois, mettre un coach sportif en entreprise avec activité physique adaptée, ça va coûter beaucoup moins cher à l'entreprise derrière.
Moi, je prends Lucille Woodward pour l'équipe de Grand Bien
Vous Fasse.
Il est 10h. Merci beaucoup, Karina, de nous avoir appelé. Il est 10h42. Il est l'heure de retrouver la chronique de Thierry Lhermitte, ambassadeur très investi de la Fondation pour la Recherche Médicale. Thierry, vos visites de laboratoire vous ont mené ce mois-ci au Centre de Neurosciences Intégratives et Cognition à Paris pour y rencontrer l'équipe d'Elsa Inzegrini. Elle est chargée de recherche au CNRS et responsable de l'équipe physiopathologie des maladies psychiatriques. La santé mentale fait en effet partie de l'axe prioritaire santé du cerveau de la Fondation pour la Recherche Médicale pour les 5 prochaines années. La Fondation qui soutient déjà depuis plusieurs années le projet de cette équipe sur la dépression liée à la maltraitance dans l'enfance. Quel est l'objectif de ces recherches, Thierry ?
Eh bien, il s'agit de comprendre les conséquences à long terme de la maltraitance infantile sur le fonctionnement du cerveau. Et les résultats dont je vais vous parler ont été en grande partie obtenus par Dea Slavova durant sa thèse soutenue l'année dernière, et elle poursuit aujourd'hui ses travaux en post-doctorat dans le laboratoire.
Alors, comment est définie la maltraitance de l'enfant et quels sont les liens avec la dépression plus tard dans la vie ?
Alors, la maltraitance infantile, ça désigne toutes les formes de mauvais traitements avant 18 ans. Elle peut être physique, émotionnelle ou sexuelle. sexuelle, mais ça peut être aussi la négligence. Selon l'OMS, 3 enfants sur 4 subissent des punitions psychiques ou de la violence psychologique entre 2 et 4 ans. C'est donc un phénomène encore très présent dans nos sociétés. Or, cette maltraitance peut avoir des conséquences graves sur la vie future des enfants. Elle engendre un stress qui peut interférer avec le développement cérébral et mener à des déficits sociaux, émotionnels et cognitifs. Et ceux-ci, à leur tour, peuvent favoriser les comportements à risque, la dépression avec un risque de suicide augmenté. Ainsi, on estime que la moitié des cas de dépression dans le monde sont la conséquence d'une maltraitance grave durant l'enfance.
C'est assez énorme. Et cette dépression a-t-elle des caractéristiques particulières ?
Oui, elle apparaît plus tôt dans la vie, elle a des symptômes plus sévères et elle est plus résistante aux traitements par antidépresseurs.
D'où le besoin de rechercher de nouvelles stratégies thérapeutiques pour ces patients. C'est l'ambition de l'équipe d'Elsa Inzigrini.
Voilà, exactement. L'équipe a un point de départ. Tous les enfants victimes de maltraitance ne développent pas de troubles psychiatriques. Certains sont résilients. L'objectif, c'est donc de comprendre les mécanismes d'adaptation qui permettent cette résilience, avec l'idée ensuite de développer des stratégies pour traiter les patients, voire prévenir la dépression.
Et quelle est l'approche de ces chercheurs ?
Eh bien, l'équipe étudie le cerveau de personnes décédées ayant subi une maltraitance dans l'enfance, ayant développé une dépression ou non. Ils proviennent de la banque de cerveau Douglas à Montréal. Elle examine en particulier une zone du cerveau qui s'appelle le locus ceruleus, qui veut dire tache bleue en latin parce que c'est une zone pigmentée. Et cette zone se développe très tôt durant l'enfance. Elle est constituée de neurones qui produisent de la noradrénaline, une molécule chimique qui agit partout dans le cerveau et a de multiples rôles, notamment dans l'éveil, la cognition, l'humeur, etc. Le locus ceruleus est également impliqué dans le traitement des informations liées au stress. C'est donc une région qui pourrait être impliquée dans la vulnérabilité psychique, mais aussi la résilience.
Et qu'a découvert cette équipe en étudiant cette région du cerveau ?
Alors, chez les personnes ayant subi une maltraitance infantile, les chercheurs ont observé une perte de neurones uniquement chez ceux qui avaient développé plus tard une dépression et pas chez les personnes résilientes, ce qui suggère un mécanisme protecteur à l'œuvre chez ces dernières. De plus, l'analyse des gènes exprimés dans les neurones du locus ceruleus montrait chez les personnes dépressives que 6 gènes seulement différaient par rapport au groupe contrôle, tandis que chez les personnes résilientes, 160 gènes étaient exprimés à des niveaux différents. Alors ça suggère que ces gènes seraient impliqués dans la résilience.
Et comment comprendre leur rôle maintenant ?
Alors là, c'est extrêmement complexe, d'autant que le locus ceruleus est en fait une structure hétérogène qui fonctionne différemment selon l'endroit que l'on observe. Et c'est encore très mal connu parce que cette hétérogénéité a été découverte il y a seulement une dizaine d'années. Pour approfondir les mécanismes en jeu, l'équipe utilise des souris qui miment une négligence infantile avec des conséquences sur le comportement similaires à celles observées chez l'humain, l'anxiété, le type dépressif ou la résilience. Et ça se complique encore, car dans ce modèle animal, les résultats chez l'adulte montrent une différence entre les sexes. Les neurones du locus ceruleus s'activent moins chez les mâles anxieux, mais aussi chez les femelles résilientes. Vous voyez comme c'est simple. Donc l'équipe d'Elsa Inzigrini va maintenant analyser les gènes qui pourraient être mis en cause. Donc les pistes à explorer sont encore nombreuses, mais quand les mécanismes de la résilience seront dévoilés, ce sera un grand pas vers de nouvelles options thérapeutiques pour les personnes en souffrance. Et pour avancer toujours plus vite, le soutien de partenaires est crucial, comme la Fondation Sisley-Dornano qui s'investit dans ce projet aux côtés de la FRM.
Et je suis ravi d'avoir découvert ce locus ceruleus.
Oui, ceruleus comme le bleu cérulé. Hein.
Exactement. Voilà. Comment aider la Fondation pour la Recherche Médicale, la FRM ?
Eh bien, sur frm.org, on peut faire un virement par Internet. Et sinon, en envoyant le SMS don au 92 300 et 10 euros sont prélevés sur votre facture téléphonique.
Thierry, vous êtes prêt pour les exercices dans un instant avec Lucille Woodward ?
Oui.
Des exercices que l'on pourra voir sur les réseaux sociaux de France Inter.
Je suis prêt à regarder.
En vidéo. Alors, on se retrouve juste après avoir écouté Maureen qui interprète Automatique, 10h48 sur Inter. Tu peux les faire.
Look at that.
Maureen, interprétée automatique.
Grand bien vous fasse.
Je crois même qu'il y a une belle journée qui se prépare.
Ali Rebéi.
Ah bon ? Eh bien, grand bien lui fasse.
Sur France Inter.
Stress, dépression, anxiété, comment l'activité physique et sportive peuvent nous aider à aller mieux avec le psychologue Boris Cheval, la psychiatre Anne Sénéquet et la coach sportive Lucille Woodward. Lucille Woodward, vous nous proposez quelques exercices à réaliser simplement à la maison, des exercices filmés que vous pourrez retrouver sur le compte Instagram ou le compte TikTok de France Inter ainsi que sur mon compte Instagram ali.rebi. On commence, Lucille Woodward.
Si allez. Je suis équipée du coup, hein, j'ai un micro. Donc, un des éléments...
Il y a même un peu de musique.
Ouais, on peut mettre un peu de musique, puisque comme on a dit pendant l'émission, la musique nous aide à être motivés et à diminuer la perception de l'effort. Et une des premières choses qu'on peut faire quand on n'a pas envie de bouger, donc c'est mettre sa musique, et ensuite respirer, puisque la respiration profonde active le bien-être et la détente, qui fait qu'on est moins stressé, donc on a plus envie d'aller bouger. Donc tout simplement, hein, les pieds bien ancrés dans le sol, un petit peu en ouverture, on plie les genoux, on va inspirer comme ça, prendre une grande inspire. Et d'un seul coup, comme ça, tout lâcher là. Voilà, encore une fois, comme ça, on inspire. Et on peut même carrément tout jeter là avec les bras. Ça active tous les muscles des épaules, des abdominaux aussi, comme ça. On le fait vraiment hyper fort, j'inspire. Et là, on jette comme ça. Et ensuite, au bout de 2-3 fois, d'un seul coup, on sent plus d'énergie. Donc on peut le faire en marchant, ça fait qu'on marche. Et on jette comme ça en reculant. Ça paraît bizarre, mais si on met la musique à fond chez soi, ça marche hyper bien. Donc encore une fois, on inspire comme ça, grosse inspire, et là on jette tout. Et si on a encore plus d'énergie, parce qu'on sent que ça vient et que ça monte, on inspire et on saute en jetant comme ça. Alors, un petit peu de saut.
Il faut préciser qu'en inspirant, vous levez les bras.
J'inspire, je lève les bras super fort, jusqu'en haut, au-dessus des épaules. Je suis bien gainée, j'ai le ventre rentré. Et ensuite, je jette tout, soit en reculant, soit en sautant en arrière. Parce que le fait de sauter, ça active la pompe sous le pied, ça fait circuler sang et ça fait énormément de bien. Et ensuite, quand on l'a fait 3-4 fois comme ça, voilà, on se sent vraiment ultra motivé chez soi. On se met devant un miroir et là, on commence à mettre les mains et les pieds sur les côtés. Donc, je balance main droite et pied droit, main gauche et pied gauche sur le côté. La main au-dessus de la tête et le pied sur le côté. Voilà,
on peut appeler ça pas chassé.
C'est une sorte de pas chassé sur place, si vous voulez. Mais comme ça, tous les muscles du corps sont activés. C'est ça qui est important. C'est ça qui va nous faire travailler le cardio chez soi sans besoin d'un grand espace. Et au fur et à mesure, si on le sent, hein, si nos articulations nous le permettent, on peut carrément mettre les deux mains et les deux pieds sur les côtés en même temps. Donc ça nous fait sauter. Ça s'appelle le jumping jack.
Jumping jack.
Voilà, on plie bien les genoux, on se redresse, on regarde droit devant soi, on fait 2 minutes de jumping jack avec les Daft Punk et on se sent mais beaucoup mieux pour le reste de la journée, pour cuisiner pour les enfants, pour aller travailler et même certainement pour aller se promener avec ses voisins. On a envie d'appeler ses copines et on n'est même pas essoufflé.
Non. En tout cas, merci beaucoup Lucille Woodward. Vous pouvez retrouver la vidéo de l'exercice sur le compte Instagram de France Inter, sur le compte TikTok également. Anne Sénéquier, moi déjà, ne serait-ce que de la voir s'activer,
vous aviez envie de venir, je me sens très bien.
Je n'avais qu'une envie.
Neurone miroir.
Neurone miroir. On avait envie de faire comme Lucille Woodward, qu'on peut retrouver sur votre application Lucile Woodward, tout simplement.
C'est ça.
Anne Sénéquier.
Oui, bah, la mobilité, c'est la vie, c'est ce qui nous permet d'être en bonne santé le plus longtemps possible, parce qu'on parle beaucoup d'espérance de vie, mais maintenant, ce qu'il faut cibler, c'est l'espérance de vie en bonne santé, et la clé, véritablement, c'est l'activité physique. Celle qu'il nous plaît, celle qu'on veut, mais absolument bouger.
Ouais, bah là, on a des ingrédients actifs de l'engagement. En fait, c'est que le coût de l'effort, justement, il n'est pas si élevé, puisque la prise de décision, elle peut être faite chez soi. On met, par exemple, l'application et puis on va faire un petit peu d'activité physique. Donc, comme l'effort, il n'est pas si élevé et qu'on a un gain qui peut être aussi conscient sur la santé, hein, ça marche quand même un petit peu la santé, ça peut permettre l'engagement. Et puis, on voit que là, il y a l'air, en tout cas, d'avoir du plaisir. Donc, si le plaisir des pratiquants, il est le même que celui de Lucile, il y a une possibilité de maintien et de réengagement à long terme. Ouais.
Et nous accueillons Marie. Bonjour Marie.
Ah, bonjour Ali.
Bonjour, vous appelez du Nord, c'est ça ?
Oui, c'est ça.
J'espère que vous avez fait les exercices de Lucile Woodward.
Non, j'ai écouté.
Bon, vous les ferez plus tard alors.
Oui, j'en fais d'autres. Je fais des allers-retours dans la maison. J'ai, je sais pas, 7 mètres de longueur. Donc, je fais des allers-retours en marchant, en levant les genoux, enfin, des choses comme ça que je fais dans la semaine, dans un petit groupe, là, où on fait des exercices adaptés. Oh, j'ai 75 ans déjà, donc...
On dirait pas.
Je saute pas, quoi.
Vous marchez beaucoup, c'est ça ? Vous faites beaucoup de marche active ?
Mon témoignage, c'est un merci à ma mère, à mes parents qui m'ont donné le goût de la nature. Et puis, ma mère aimait marcher. Et nous allions toujours marcher. Quand j'étais petite fille, déjà, nous allions marcher. Et j'allais marcher pour aller à l'école. À l'époque, on marchait pour aller à l'école. J'avais, à l'adolescence, 30 minutes pour aller à pied jusqu'à l'école. Et le dimanche, puis il y avait un creux, nous allions marcher aussi, et en regardant la nature, on appréciait, puis on se parlait aussi, donc c'était bon pour notre relation. Et cette habitude est restée en moi, ce goût pour la nature est resté en moi. Et c'est ça, je peux dire, qui m'a sauvé la vie à certains moments, quand il y a eu des moments difficiles, des deuils compliqués, où j'étais seule, dans un endroit où je n'avais pas d'amis proches. Et j'étais, il y avait la forêt à côté, donc j'allais marcher, j'allais travailler. Quand je terminais ma journée, j'allais marcher, je pleurais dans la forêt, je parlais aux arbres, personne pour me regarder, hein, mais c'était vraiment quelque chose qui m'a sauvée. Bien sûr, à certains moments, j'ai fait appel à des psys, mais cette possibilité de sortir, d'aller marcher dans la nature, c'est comme si, quand on rentre chez soi, le problème n'était plus le même. Il n'a rien à changer, mais c'est dans ma tête que ça change, quoi. C'est plus léger.
Vous savez, il y a des études qui indiquent que le fait de marcher réduit les ruminations au bout de 10, 15, 20 minutes. Donc je comprends totalement ce que vous nous dites, Marie. Anne Sénéquier, Boris Cheval, pour conclure sur les propos de Marie.
Ça m'évoque l'art du chemin. L'art du chemin, c'est la capacité à voir, identifier les petits bonheurs malgré la globalité compliquée. Et c'est vrai que cette mobilité active, la marche, le vélo au quotidien, bah, ça nous remet en contact aussi avec notre environnement de manière plus présente. Plus on voit les saisons, on voit les petits bourgeons qui éclos jour après jour. Et quelque part, bah, ça, c'est des petites choses qui, ça ne change pas le quotidien, mais malgré tout, ça nous permet de l'appréhender plus simplement.
Boris Cheval.
Et puis ça permet de faire le lien aussi avec l'étude qu'a présenté Thierry. Les parents, le rôle des parents, c'est pour le meilleur et pour le pire. Alors parfois pour le meilleur dans le cas de Martine, et puis parfois ça peut être pour le pire avec des expériences aversives qui vont créer une trajectoire. Après, c'est hyper important aussi de rappeler que tout se joue pas non plus dans l'enfance. Il y a beaucoup de choses qui vont jouer dans l'enfance, mais il y a toujours moyen quand même de rattraper. Ça va être plus difficile, mais faut pas dire que parce qu'on a eu par exemple des situations difficiles, etc., que derrière tout est joué. On a toujours une possibilité de changement, une plasticité finalement. Donc il faut quand même y penser aussi. Ouais.
Merci beaucoup Marie de nous avoir rappelé. Alors, retenez que l'activité physique agit sur le cerveau en modifiant sa biochimie avec une régulation de la sérotonine, une production d'endorphines et de dopamine notamment, avec une réduction du cortisol, l'hormone du stress, et que ça produit également, ça augmente la production du facteur neurotrophique dérivé du cerveau, le BDNF, une protéine essentielle à la croissance et à la survie des neurones. Bref, bougez. Un mot de conclusion, Lucile Woodward.
Mettez le son et bougez tout de suite.
Et Thierry, vous êtes un cavalier émérite. C'est vrai que les bienfaits du cheval...
Ouais, oui, ça fait bouger. De toute façon, c'est le cheval qui bouge beaucoup. Ouais. Mais néanmoins,
il faut bouger un petit peu. Sentiment de bien-être quand même total quand vous montez à cheval.
Ouais, puis de faire du bien. Ouais.
Merci beaucoup, Boris Cheval. Le syndrome du paresseux, c'est publié chez Duno Poche. Merci, Lucile Woodward.
Merci.
On retrouve votre application Lucile Woodward. On vous retrouve également sur vos réseaux sociaux. Anne Sénéquier, votre livre, c'est...
L'anxiété de mon enfant, applicable à tous, bien sûr.
Aux parents, évidemment. Allez, demain, comment arrêter de culpabiliser ? Comment lutter contre son sentiment de culpabilité ?